France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, si je vous dis Fred Astaire, Gene Kelly, Stanley Donen, Vincente Minnelli, vous dites que je m'engage dans la 42e rue, l'émission de Laurent Vallière consacrée à la comédie musicale le dimanche à 13h sur France Musique. Vous n'aurez pas tort, pour la dernière émission de la saison, nous allons en effet traverser l'Atlantique et d'un pas léger suivre les traces du musical hollywoodien de ses débuts à nos jours. Nous serons pour cela guidés par Entebbin qui, avec José Moore, a coordonné un ouvrage collectif réunissant une vingtaine d'auteurs. Le musical hollywoodien, histoire, esthétique, création, sous les directions de Entebbin et José Moore, aux éditions Impressions Nouvelles.
Being here tonight like this. Still on the same boat together.
Oh, I seldom change boats in mid-ocean.
I mean, look how lucky I am. The first time I find myself on a boat with somebody like you, it turns out to be you.
At any gambling casino, from Monte Carlo to Reno, they tell you that a beginner comes out a winner. Beginner fishing for flounder will catch a 17-pounder. That's what I've always heard and always thought absurd, but now I believe every word. For I've got beginner's luck. The first time that I'm in love with you. Gosh, I'm lucky. I've got beginner's luck. There never was such a smile or such eyes of blue. Gosh, I'm fortunate. This thing we've begun is much more than a pastime. For this time is the one where the first time is the last time. I've got beginner's luck, lucky through and through. 'Cause the first time that I'm in love with you.
Fred Astaire, dans un extrait du film Shall We Dance, traduit en français par l'entreprenant Monsieur Petrov, dans I've Got Beginner's Luck de George et Ira Gershwin, un film de Marc Sandrich paru en 1937 avec donc Fred Astaire et Ginger Rogers. Bonjour Entebbin.
Bonjour.
Vous êtes ancien maître de conférence en études cinématographiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du comité de rédaction de la revue Positif, sous le nom de plume Yann Tobin, auteur de nombreux ouvrages consacrés au cinéma. Les cinéphiles, évidemment, vous connaissent bien et vous avez donc coordonné avec José Moore ce livre consacré au musical, à la comédie musicale, musical hollywoodien. Une question pour commencer. Vous dites dans votre introduction que la comédie musicale n'a pas toujours été bien considérée. C'était plutôt considéré comme un genre à la fois mineur et en même temps dispendieux.
Oui, c'est un genre qui était considéré toujours, à mon avis maintenant,
oui.
comme léger.
Oui, c'est vraiment du pur divertissement.
Voilà, c'est du pur divertissement, c'est donc frivole.
Oui. Hein.
Et puis, c'est un genre en plus qui coûte très cher à produire, parce qu'il faut... on a recours à des équipes plus nombreuses pour écrire les chansons, pour les intégrer à un scénario, pour répéter les chorégraphies, etc. Faut recruter des gens qui ont des savoir-faire très précis, les faire tous travailler ensemble, ça coûte cher. Faut parfois acheter acheter les droits de chansons ou de spectacles qui coûtent très cher. Donc, puisque ça coûte cher, c'est difficile à produire, il faut que ce soit rentable. Donc, c'est un genre qui est censé être très commercial. Et c'est le cas, d'ailleurs, aux États-Unis.
Oui. Et, donc, on va tout faire pour flatter les goûts du public, c'est ça?
Oui, enfin pour flatter les goûts du public et que le public se précipite en masse dans les salles, ce qui était tout à fait ce qui était la norme dans le cinéma hollywoodien des grands studios qui fonctionnait à l'époque, et faut savoir que c'est un genre qui était peu exportable à l'étranger, qui était très imité. C'est-à-dire que le fait de mettre du chant et de la danse dans des films pour les rendre plus spectaculaires, ça a été fait, mais à l'échelon de chaque pays. On exportait, ou plutôt on importait de Hollywood des westerns, des films noirs, des films de gangsters. Mais par contre, pour les comédies musicales, c'était moins. En plus, qu'est-ce qu'on faisait des chansons, par exemple? Est-ce qu'on les doublait dans la langue, en l'occurrence française, en France? Est-ce qu'il fallait les sous-titrer? Voilà.
Peu exportable, dites-vous, Entebbe. Est-ce que ça signifie que c'est un genre typiquement américain qui est né aux États-Unis ou qui a quand même quelques racines en Europe?
Les deux, mon capitaine. Puisque le fait qu'il soit né, enfin qu'il ait éclos aux États-Unis et d'abord sur scène, puis au cinéma, lorsque le cinéma s'est mis à parler, mais surtout à chanter, et éventuellement à danser des claquettes, ne veut pas dire qu'il n'avait pas des racines ailleurs, avant le cinéma, y compris des racines européennes. Et une des caractéristiques de ce genre au cinéma, mais déjà un peu au théâtre, à New York, à Broadway, c'est un genre qui a la capacité d'hybrider ou de ramener à lui toutes sortes d'autres genres ou d'autres formes, qu'elles soient musicales, qu'elles soient théâtrales, qu'elles soient narratives ou même picturales, pour en faire une sorte de melting pot. C'est un terme que les Américains aiment bien, puisque c'est les mélanges culturels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des générations et même de l'évolution des goûts musicaux, différentes sortes de musique, d'ailleurs qu'elles soient savantes, populaires, traditionnelles, folkloriques, ont été, disons, adaptées en comédie musicale.
Oui, c'est ça.
Parfois, au grand cri des puristes.
Puisque je pense aussi, c'est des noms qui apparaissent dans votre livre, Entebbe. Je pensais à l'opérette viennoise, puis je pensais aussi à Lubitsch et à toutes ces artistes européens qui ont émigré aux États-Unis.
Absolument. Quelqu'un comme Lubitsch, c'est tout à fait significatif. C'est-à-dire que Lubitsch, il vient du cinéma muet allemand. Lorsque le cinéma se met à parler, il n'a pas envie que le cinéma se transforme en bavardage issu des pièces de théâtre. Donc, il se dit, je vais inventer une sorte de spectacle total qui va intégrer cette nouveauté technologique qu'est le son, mais avec de la musique, du chant. Et puis, lui, il est immigré aux États-Unis. Donc, il importe sa culture, disons, germanique, y compris l'opérette viennoise.
Oui, c'est ça. Ouais.
Il va recruter une jeune chanteuse qui s'appelle Jeannette MacDonald. Il va la mettre en couple ou en tandem avec Maurice Chevalier, qui devient grâce à cela la première superstar du cinéma parlant mondial, et d'abord hollywoodien, pas tellement français. Et Jeannette MacDonald, cette jeune soprano américaine, dira même Ernst Lubitsch avait le sens de l'humour le plus américain que j'ai jamais vu, alors que il ne s'est jamais départi de son accent allemand. Et donc il jouait des airs d'opérette sur les plateaux, même quand ces films n'étaient pas musicaux. Et c'était une époque où les innovations techniques, il y en avait une par mois à Hollywood. Donc avec l'amélioration de la prise de son, du mixage, du montage, des techniques d'enregistrement du chant, aussi pour l'intégrer à des narrations au récit des films. Tout ça a fait que la comédie musicale est devenue un genre très, disons, très populaire au début du cinéma parlant, au point que ça saturait les écrans de revues musicales filmées, très pauvrement filmées. Et il a fallu attendre quelques années avant que déjà très tôt, vers 1933, la comédie musicale presque déjà renaît de ses cendres avec des gens comme Busby Berkeley ou avec Fred Astaire et Ginger Rogers.
Gone are my blues and gone are my tears. I've got good news to shout in your ears. The long lost dollar has come back to the fold. With silver you can turn your dreams to gold. Oh, we're in the money, we're in the money. We've got a lot of what it takes to get along. Oh, we're in the money. The sky is sunny. Oh man, depression, you are through. You done us wrong. Oh, we never see headline about red line today. And when we see the landlord, we can look that guy right in the eye. Oh, we're in the money. Come on, my honey. Let's lend it, spend it, send it rolling around.
Boy, we're in the money. I'll say we're in the money. We've got a lot of what it takes to get along. Let's go, we're in the money. Look up, the skies are sunny. Old man, depression, you are through, you've done us wrong. We never see a headline, about red line today. And when we see the landlord, we look that guy right in the eye. We're in the money.
C'était Ginger Rogers en 1933 dans Les Chercheuses d'or de 1933, un film de Mervyn LeRoy sur une musique de Harry Warren. N.T. Bean, vous avez évoqué les figures de Busby Berkeley, et justement, il est derrière de nombreuses comédies musicales, et il y a un article, puisque c'est un ouvrage collectif, hein, j'ai dit en introduction, c'est pas une histoire de la comédie musicale, hein, c'est la comédie musicale appréhendée par différentes portes ou différents angles. Et, cette figure apparaît, et notamment son rapport au corps féminin.
Absolument.
Alors,
là, on vient d'entendre Ginger Rogers. Ouais. C'est l'année où elle va rencontrer Fred Astaire, à Hollywood. Ils s'étaient déjà connus un peu avant. Effectivement, Busby Berkeley, que vous n'avez pas cité comme metteur en scène, puisque officiellement, il n'est crédité comme dance director.
C'est ça, voilà.
C'est-à-dire qu'il a, en fait, il a conçu et réalisé tous les numéros musicaux du film.
Qui sont toujours des numéros absolument éblouissants.
Oui, souvent avec beaucoup de girls, des chorus girls, qui n'ont pas des compétences forcément très chorégraphiques, mais
dont les corps, choisis pour d'autres raisons, c'est ça ?
Dont les corps sont très importants, et qui ils vont les corps féminins et parfois masculins, parfois les deux ensemble, chez Busby Berkeley, vont devenir des partenaires de la caméra, qui va les filmer jusqu'à l'abstraction, c'est-à-dire que on a ces visions de plans généraux parfois filmées en plongée verticale, où les corps constituent des motifs floraux, kaléidoscopiques, etc. Il vient de la scène. Et il a révolutionné la manière de filmer les numéros musicaux à l'écran, c'est-à-dire pas avec plusieurs caméras statiques comme on le fera à la télévision beaucoup et ensuite on passe d'un point de vue à l'autre, mais avec une caméra qui fait partie intégrante de la chorégraphie et effectivement avec l'accent mis sur le corps féminin très souvent, mais et d'une façon parfois provocante, mais comme il est expliqué par Francis Borda dans le texte, c'est aussi une manière pour les femmes ou les personnages féminins dans le récit aussi d'affirmer une sorte d'autonomie ou de provocation par rapport au regard masculin qui est porté sur elles. Donc il y a une ambiguïté, il y a
volontaire
ou en tout cas affiché.
Oui.
Je ne sais pas si c'était dans le projet, puisque le projet de Busby Berkeley, c'était surtout de faire des choses belles, de faire de la beauté. Mm-hmm. C'est-à-dire que dans le même film qu'on vient de voir là, qui est aussi un film sur la crise économique, vous avez le ballet des chômeurs à la fin, qui sont les anciens combattants de la guerre de 14 et qui deviennent chômeurs, voire sans abri, et qui doivent aller à la soupe populaire, et avec une forme de critique sociale très prononcée. D'ailleurs en phase avec le studio Warner ou le producteur d'Ariel Zanuck cultiver cette espèce de double discours très souvent dans les divertissements, aussi bien dans les comédies musicales que dans les films de gangsters, par exemple.
Mmh. Et il est mentionné l'origine militaire des chorégraphies de Berkeley. Qu'est-ce que ça signifie ? Très symétrique, très organisé, très cadré.
Il a été formé. Il n'était pas danseur au départ, mais il a été formé dans une école du genre, en France, ce serait Saint-Cyr, de West Point, où il avait notamment pour fonction de régler les grandes parades militaires géométriques. Ce savoir-faire, il l'a transposé à Broadway, notamment dans les Ziegfeld Follies, dans des revues très luxueuses avec des costumes somptueux et aussi des figures comme ça qui étaient dessinées par le chorus de garçons et de filles.
Can't we two go walking together out beyond the valley of trees, out where there's a hillside of heather curtsying gently in the breeze? That's what I'd like to do, see the heather, but with you. The mist of May is in a gloamin', and all the clouds are holding still. So take my hand and let's go roaming through the heather. Morning dew is blinking yonder. There's lazy music in the rill. And all I want to do is wander through the heather on the hill. There may be other days as rich and rare. There may be other springs as full and fair. But they won't be the same, they'll come and go, for this I know, that when the mist is in the gloaming and all the clouds are holding still, if you're not there, I won't go roaming through the heather on the hill. The heather.
The Heather on the Hill, extrait de Brigadoon, interprété par Gene Kelly, et un orchestre dirigé par Johnny Green sur une musique de Frederick Law. Brigadoon, film de Vincente Minnelli de 1954, Entebbe, adaptation d'une comédie musicale créée auparavant à Broadway.
Est-ce que c'est Alan J. Lerner et Frederick Law. Oui.
Est-ce que c'est souvent le cas, justement, que le cinéma s'empare du succès de la scène, c'est-à-dire emprunte à ce qui s'est passé à New York pour le transposer sur la côte ouest à Hollywood.
C'est très fréquent, mais pas uniquement dans les comédies musicales.
Enfin, oui, non, bien sûr. Oui, voilà. Mais est-ce que c'est aussi quand même une des façons, une des pratiques régulières de
oui,
du musical hollywoodien?
Oui, alors ça a beaucoup d'avantages pour la production. C'est que il n'y a pas besoin de chercher une histoire et de faire écrire des chansons. Elles existent déjà. En général, on adapte des succès. Mm-hmm. Donc les chansons sont même déjà connues.
Oui.
Ils vont être un facteur d'attente pour le public.
Mm-hmm.
Et puis...
Mais on reprend pas forcément la même équipe.
On reprend pas forcément les...
ceux qui étaient sur scène sont pas forcément ceux qui sont sur la pellicule.
Non, mais en revanche, presque tous les interprètes des grandes comédies musicales à Hollywood viennent de Broadway.
Mm-hmm.
Donc, par exemple, là, il y a Gene Kelly et Sid Charis,
oui.
qui sont les stars de Brigadoon, le sont parce que, comme c'est un investissement énorme de faire reconstituer la lande écossaise en studio, c'est une super production musicale, eh bien, on va miser sur des stars de cinéma. On ne va pas reprendre les interprètes d'origine de la scène. Il y a comme ça des exemples très célèbres que Julie Andrews, qui avait créé My Fair Lady, des mêmes auteurs que Brigadoon, sera négligée ou sera... on lui préférera Audrey Hepburn, qui est une superstar.
Ouais.
Autre chose, Brigadoon sur scène était un musical où c'était le chant qui était prédominant, avec une forte influence de l'opérette européenne, et ça deviendra un musical dansé. On prend deux danseurs pour jouer les rôles principaux. Donc Gene Kelly, qui détestait sa voix, fait d'ailleurs couper quelques chansons parce qu'il estime qu'il les chante pas assez bien. Et puis on prend la plus grande danseuse de l'époque à Hollywood, qui est Sid Charis. Et comme elle ne chante pas, on la double dans les parties chantées.
My grandpa told me, Chip, my boy, there'll come a time when you leave home. If you should ever hit New York, be sure to see the Hippodrome.
The Hippodrome?
Yeah, the Hippodrome.
Did I hear right? Did you say the Hippodrome?
Yes, you heard right. Yes, I said the Hip. Hey, what did you stop for?
It ain't there anymore. They tore it down, you know, a dozen years ago.
Ah, I wanted to see the Hippodrome.
What year is that guidebook anyway?
1905.
1905? No wonder. Don't you realize a big city like this changes all the time? But there's one thing that doesn't change, kid. Come up to my place.
No. My grandpa told me I would eat the greatest meal I'd ever want at the famous rendezvous, the place called Rector's Restaurant.
What restaurant?
This restaurant.
Did I see right? Was that Rector's Restaurant?
Yes, you saw right. That was Rector's Rest. Hey, what for did you stop?
That place has closed up shop. Why, Rector's past its prime in Lillian Russell's time. Come up to my place.
Never. My grandpa saw the girly shows and told me of one special pearl. He said the hottest show in town was called the Floridora Girl.
Floridora Girl?
Yeah, the Floridora Girl.
Did I dig that? Was that Floridora Girl?
Yes, you dug that. That was Floridora. What stop for did you hay?
You may not see that play, that famous girly show close 40 years ago.
No. My grandpa said I'd see New York in all its beauty and its power, from the city's highest spot atop the famous Woolworth Tower.
The Woolworth Tower?
Yeah, the Woolworth Tower.
Hold the phone, Joe. Did you say the Woolworth Tower?
I'm still ringing. Yes, I said the Wool. Did you stop for hey what?
That ain't the highest spot. Since that old guidebook state they built come up to my place.
Let's go to Cleopatra's Needle.
Let's go to my place.
Let's see Wanamaker's store.
Let's go to my place.
Let's go to Lindy's, go to Luch House.
Go to my place.
Let's see Radio City and Herald Square.
Let's go to my place.
Go to Rubens.
Go to my place.
Go to Macy's.
Go to my place.
Go to Roxy.
Go to my place.
Cloisters, Gimbel, Flatiron, Building, Heffler-John.
My place.
Frank Sinatra et Betty Garrett, c'était un extrait de On the Town, traduit en français par Un jour à New York, Come Up to My Place, musique de Leonard Bernstein. Là aussi, NTB, ça vient de la scène, ça a été adapté au cinéma, donc par Stanley Donen et Gene Kelly, c'est ça?
Absolument, c'est leur premier film en co-réalisation avant Chantons sous la pluie. Et d'ailleurs, les auteurs d'origine de la pièce, Betty Gomden et Adolph Green deviendront les scénaristes de comédies musicales les plus célèbres d'Hollywood. Mais par contre, Leonard Bernstein va beaucoup se plaindre de l'adaptation. Il va dire qu'on coupe certaines de ses chansons qui sont censées peut-être être trop sophistiquées pour les remplacer par des chansons plus qui ont l'air plus populaires. Voilà, on en garde quelques-unes, dont celle que vous venez d'entendre. La chorégraphie de Jerome Robbins est remplacée par une chorégraphie de Gene Kelly. Et c'est un film très important puisqu'il y a quelques séquences qui sont tournées en décor naturel. Ce qui est très rare pour les comédies musicales à l'époque, le début et la fin du film, qui donne une sorte de touche un petit peu plus réaliste à ce genre.
Et justement, à propos de ce film, à l'occasion de ce film, il y a un article que je trouvais très intéressant sur Sinatra et la figure de la virilité que représentait Sinatra, une figure un peu particulière, on va dire, dehors des codes de l'époque.
Absolument. Alors, Sinatra, c'était l'idole des jeunes, fait notamment des jeunes filles à l'époque, en tant que chanteur. Mais il avait son physique à l'écran, de un peu gringalesque, était opposé à celui très athlétique de Gene Kelly. Et ce qui est intéressant dans le texte de Karen McNally, qui est une spécialiste notamment des star studies américaines, c'est la persona de Sinatra qui va évoluer avec le genre et qui, dans les personnages qui jouent, notamment dans un film comme Un jour à New York, il y a les rapports habituels de domination de couple sont inversés, c'est-à-dire c'est toujours les filles qui lui courent après. Ici, Betty Garrett, qui joue le rôle d'une chauffeuse de taxi, est quasiment prédatrice par rapport à ce jeune marin en permission qui veut visiter tous les lieux dont son grand-père lui a parlé. Voilà, et c'est une personnalité Sinatra qui va évoluer au fil des années 40 et 50 avec des interactions entre son image au disque et à la radio et son image privée et son image hollywoodienne. Et dans les années 50, il deviendra beaucoup plus le séducteur viril aux traits un petit peu marqués qu'on a l'habitude de voir dans les années 50. Et c'est là qu'il deviendra vraiment une star hollywoodienne et non pas juste un chanteur de charme qui fait des films.
Très bien, merci beaucoup Entebbe. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez coordonné avec José Moore, le musical hollywoodien Histoire, Esthétique, Création, paru aux éditions Les Impressions Nouvelles. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Cédric Chatelus, attaché de production Annick Aumier. Excellente journée et bel été à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.